Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alix Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation thérapeutique avec Alix Georges. Alix, nous revoilà pour notre 6e épisode de nos conversations thérapeutiques. Je suis super contente. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour enregistrer un épisode. Et je suis d'autant plus contente qu'on va aborder un sujet que j'adore et qui me passionne, c'est la psychologie de l'enfant. C'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, bien avant d'être maman, bien avant d'être enceinte. Et quand on a essayé de tracer notre ligne directrice commune sur les différentes thématiques qu'on va aborder ensemble, bah, la psychologie de l'enfant, ça nous est un peu apparu comme une évidence, en sachant que, bien entendu, tu vas nous le dire, hein, mais on n'a pas l'intention d'apporter des jugements de valeur ou d'apporter un regard clinique ou médical sur une situation. Donc ça, c'est important de le rappeler quand même en amont. Mais j'avais quand même envie d'essayer de creuser avec toi certains sujets, puisque tu es thérapeute, hypnothérapeute. Tu t'appelles Alix Georges. On peut retrouver, bien entendu, ton site internet en tapant ton nom, Alix Georges, et te consulter pour des consultations. Donc, Alix, j'ai envie de te poser comme première question. De quoi parle-t-on quand on parle de psychologie de l'enfant? Tu vois, je sais que la question est très vaste, mais en tout cas, dans le cadre de cet épisode, bien entendu, on va aborder la petite enfance. Enfin, il faut quand même le dire, on va s'arrêter quand même à l'adolescence, enfin, à 12-13 ans. Mais voilà, j'ai assez parlé, donc je te laisse parler. En gros, qu'est-ce que c'est que la psychologie de l'enfant?
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Pareil, je suis très contente de te retrouver pour cet épisode. Alors la psychologie de l'enfant, donc c'est la discipline de la psychologie qui a pour objet d'étude les processus de pensée et de comportement de l'enfant et son développement psychologique. Donc ouais. Ça, c'est la définition ouais. De la psychologie de l'enfant. En amont, je précise simplement que c'est un sujet très vaste, très complexe, que c'est un sujet où il va falloir faire très attention. Tout ce qu'on va dire est uniquement théorique. Ouais. Et je mets en garde notamment les auditeurs, chaque individu est différent. Il ne faut absolument pas mettre quelqu'un dans une case, c'est très dangereux. On est beaucoup plus complexe qu'un exposé clinique ou qu'un exposé théorique. Ouais. Donc un épisode à écouter avec beaucoup de recul. Ouais. Pas de culpabilité pour les parents. Y a des parents qui font tout bien et ça crée des symptômes. Il y a des parents qui font tout, entre guillemets, moins bien et ça coule sur l'enfant. Hein. Ouais. La psychologie reste une science humaine. Ouais. Chaque cas est différent, c'est d'une très, très grande complexité. Ouais. Donc, on prend tout ça avec du recul.
C'est ça. Ouais. Donc, du coup, on va évoquer déjà, je le disais rapidement, mais quelle tranche d'âge?
Alors, les grandes étapes dans la psychologie de l'enfant, donc il y a la vie prénatale en premier lieu, donc embryon, fœtus, avant la naissance, première étape. Deuxième étape, il y a l'étape de la naissance, nouveau-né et nourrisson, jusqu'à environ 6 mois.
Ouais.
Troisième étape, de 6 mois à 1 ou 2 ans, c'est l'étape bébé, en gros, entre 1 et 2 ans, c'est-à-dire apprentissage de la marche et entrée dans le langage. Ensuite, tu as la petite enfance, donc à partir de 1 an et demi, 2 ans, langage, indépendance, entrée à l'école, etc., jusqu'à 6 ans.
Et après, tu as la... pas maman.
C'est la période du non, le terrible tout. Et après, tu as la grande enfance de 6 ans à 13 ans, qu'on appelle en psychologie la période de latence. Et ensuite, donc, c'est l'entrée dans l'adolescence qu'on abordera, je pense, dans un autre épisode, parce que c'est totalement différent.
Ouais. Et puis là, on a suffisamment à faire.
Exactement.
C'est quand même suffisamment vaste. À partir de quand on a commencé à se poser des questions, comme moi, sur la psychologie de l'enfant ? Enfin, c'est quoi l'histoire de la psychologie de l'enfant, finalement ?
C'est une discipline qui est extrêmement récente, en fait, parce que jusqu'au 19e siècle, l'enfant était considéré comme un adulte en miniature. Donc, il y avait très peu d'écrits. Enfin, les principaux écrits qu'on a sur l'enfance sont principalement pédagogiques.
Ouais.
Il faut attendre un petit peu avant le 19e. Le premier, c'est au 18e siècle, Jean-Jacques Rousseau, qui écrit donc Émile ou de l'éducation.
Ah, oui. De l'éducation, pardon.
Exactement. C'est le premier, finalement, en Europe. Hein. Je connais mal l'histoire de la psychologie de l'enfant en Asie ou en Afrique, par exemple. C'est le premier à reconnaître l'importance de la psychologie de l'éducation. Et on lui attribue cette phrase qui résume sa pensée. En fait, elle n'est pas localisée dans son œuvre, cette phrase, mais ça résume sa pensée. Le petit homme n'est pas un petit homme.
Ah ouais.
Tu vois ?
D'accord.
C'est l'idée d'une réalité psychologique propre à l'enfant.
D'accord.
C'est le premier, finalement, penseur, philosophe occidental qui aborde cette notion. Néanmoins, la psychologie de l'enfant, l'émergence va arriver beaucoup plus tard, hein, au moment de Freud. Avant ça, tu vas avoir en Angleterre Darwin qui va commencer au 19e siècle à relater des observations dans son journal. Le petit a mis sa main dans sa bouche, c'est vraiment
d'accord.
de leur observation. Il va aussi commencer à s'intéresser aux émotions et expressions de colère, de peur, de plaisir, etc. dans l'observation. En Allemagne, t'as William Pryor, pareil, qui va observer le développement de l'enfant avec son fils, commencer à y apporter de la méthode, mais ça reste extrêmement descriptif, comme je te disais. Et la psychologie de l'enfant va finalement vraiment commencer fin 19e, début 20e, avec en fait les premiers liens entre la psychologie et la pédagogie. C'est par là qu'on va rentrer dans la psychologie de l'enfant, avec notamment cette femme qui est très connue, Maria Montessori en Italie.
Sûr.
Alfred Binet en France, Édouard Claparède en Suisse et t'as Stanley Hall aux États-Unis qui va être le premier qui va vraiment s'intéresser à ça. Freud, de son côté, donc là on est en 1905, donc début 20e, va développer une théorie du développement qui explique l'origine de nos névroses. Il va décrire notamment le complexe d'Oedipe, mais on va y revenir plus tard. Et t'as Jean Piaget, donc, qui est le grand-père de la psychologie de l'enfant en France, qui va s'y intéresser en tant que biologiste au départ. Et en fait, sa grande théorie, il va dire « l'enfant explique l'homme autant et souvent plus que l'homme n'explique l'enfant ». Donc ça va être le premier qui va en fait aller contre le concept de linéisme. Pour lui, il va capter.
Et c'est Zolto qui disait aussi que les enfants sont les symptômes des parents, c'est pas ça ?
Ça, c'est après,
ouais, c'est
François
plus tard,
Zolto.
Ouais.
Lui, Piaget, ça va être le premier qui va capter que, en fait, l'enfant, donc rien n'est inné, tout est acquis. Tout se construit progressivement lorsque l'enfant entre en contact avec le monde. Et il va élaborer, ce que je trouve extrêmement puissant en psychologie, le fait que l'adaptation est la caractéristique essentielle du développement de l'intelligence. Je te donne un exemple. À chaque fois que l'individu, l'enfant, perçoit un objet physique ou une idée, il va tenter de l'assimiler. Tu dois remarquer, avec
c'est
ton
vrai.
Fils,
bien sûr.
Par exemple, il va comprendre la gravité en faisant tomber. Tu sais, les enfants font tout
oh,
le temps
oui.
tomber.
Oui, oui, je vois bien.
C'est une assimilation de l'environnement qui va développer son intelligence. Ça donne, en fait, les enfants sont des logiciens en herbe qui donnent un sens aux objets en faisant émerger leurs propriétés et fonctions. Et ça, c'est une idée extrêmement novatrice. Ça peut te paraître évident, mais ça ne l'était pas.
Non, bien sûr.
Donc, en parallèle, effectivement, tu vas avoir ensuite des très, très grands courants de la psychologie de l'enfance. Avec les principaux théoriciens, il y en a trois. Mélanie Klein, qui va théoriser beaucoup de mécanismes et qui est très psychanalytique. Donald Winnicott, qui est très connu. C'est lui qui a élaboré le concept de la « good enough mother », la mère suffisamment bonne, on va en parler. C'est lui qui va parler de l'objet transitionnel, c'est le doudou, en fait, qui est important à l'enfant. Et tu as Françoise Zolto, dont tu me parlais tout à l'heure, qui est une très, très grande clinicienne sur l'enfant et qui va dire, bon, je ne sais pas si elle l'a vraiment dit, mais c'est sa grande idée, le bébé est une personne. C'est la première, ça paraît fou parce que c'est il n'y a pas longtemps, hein, qui va considérer que le bébé est un individu à part entière. Tu vois, qui est douée de compréhension, qui est capable d'expression et elle va introduire une notion qui pour nous est très évidente dans notre génération, mais qui ne l'était pas avant, c'est celle du parler vrai à son enfant.
Eh ben moi, je l'ai toujours fait, ça.
Ouais.
Mais je l'ai fait naturellement.
À l'époque, on parlait bébé, ou on parlait pas.
À Gaga, à Gugu, ou on parlait pas. Et c'est vrai que moi, depuis qu'il est tout petit, enfin, je crois que même depuis qu'il est né, je lui parle comme je te parle à toi. Voilà. J'utilise pas des mots agaga, gugu, le waf-waf, je dis le chien.
Et c'est très bien. Elle explique aussi, en fait, elle pensait, c'est la première à penser ça, que le bébé comprenait tout. Elle disait, le bébé comprend tout, mais on ne sait pas comment il comprend. Mais c'est elle qui a insisté sur le parler vrai, sur le fait de ne jamais mentir à un enfant. On ne peut pas mentir à l'inconscient, disait-elle. Il peut toujours connaître la vérité. Il connaît toujours la vérité.
Moi, je suis convaincue que mon fils, il comprend plus de trucs que moi.
Mais tu as raison. Peut-être pas pour plus.
J'ai observé certaines phrases, certaines réactions de sa part. Je sais pas, alors je vais pas te couper dans ton développement, mais j'en parlerai en fin d'épisode certainement. Mais c'est vrai que moi, il me sidère, en fait. Il me sidère. Voilà.
Et pourquoi la parole est tellement importante, notamment parce qu'en fait, pour elle, c'est même sur la parole que l'autorité va pouvoir se baser. Donc ça va être un énorme changement aussi dans la façon d'éduquer les enfants. Tu vois, l'autorité va être beaucoup plus fondée sur la parole, sur la force d'une parole que sur des règles purement disciplinaires.
Ouais.
C'est ça qu'elle va introduire et elle va avoir un succès fou, notamment sur ses émissions sur France Inter.
Bien sûr.
Lorsque l'enfant paraît. Tous les jours, de 1976 à 1978, elle répondait aux auditeurs en direct sur la relation.
Pas, mais je vois très bien de quoi tu parles.
Donc, voilà le tableau sur la psychologie, sur l'histoire de la psychologie de l'enfant. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu tous des enfants de Françoise Zolto sur la façon d'aborder la psychologie de l'enfant en considérant l'enfant comme un individu à part entière.
Ouais, ouais. Et alors, du coup, tu nous as donné plein de références. Je les remettrai en note d'épisode parce qu'il y a beaucoup de noms que t'as cités et que chacun peut aller creuser à sa convenance. Donc, de ce que je crois comprendre, enfin, en tout cas, encore une fois, je m'y connais certainement moins bien que toi, mais comme tu le sais, j'ai été enceinte, j'ai lu plein de bouquins pendant que j'étais enceinte, et à savoir... tout se joue avant 3 ans. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de... Quand on est enceinte, j'ai le sentiment qu'on a énormément de littérature qui nous tombe dessus. Tu vois, on se sent même un peu... Enfin, moi, je me suis sentie un peu coupable, limite, de pas lire tout, de pas tout connaître, de pas tout savoir. Et tout. Enfin, je trouve ça fantastique d'avoir accès à beaucoup d'informations. Mais si tu veux, à un moment, je me suis sentie... surinformée. Et ça m'a limite plus stressée qu'autre chose, tu vois, pendant ma grossesse. Je me souviens, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je lise tout, il faut que je comprenne tout, il faut qu'il arrive, qu'il y ait ça, qu'il... Donc, bien sûr, j'ai lu des livres. J'en ai pas lu des masses, à vrai dire. Et j'ai compris, en tout cas, à travers ce que j'ai lu, qu'il y avait différentes phases, bien entendu, et que quand il est dans ton ventre, enfin, quand ton enfant est dans ton ventre, il se passe pas les mêmes choses que quand il vient de naître, ou tu viens de le dire. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Mais voilà, est-ce que tu peux nous donner déjà, est-ce que tu peux, m'éclairer sur les grandes phases, quoi? Qu'est-ce qu'on peut noter quand l'enfant est intra-utéros, enfin, dans le ventre? Qu'est-ce qu'on peut dire quand il est sorti du ventre jusqu'à ses 6 mois? Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite de ses 6 mois à ses 1 an et demi? Et puis, et en tout cas, moi, maintenant, même si j'ai pas beaucoup de recul et que je suis une jeune vieille maman, j'ai bien entendu observer qu'il y avait des changements drastiques entre cette période où il est dans ton ventre et la période où il a maintenant 2 ans et quelques.
Oui.
Donc, et j'aimerais bien avoir ton éclairage là-dessus, tu vois, sur les grandes phases.
Tu as raison que de 0 à 2 ans, c'est une période absolument fondamentale. Hein. Et tu as aussi raison sur le fait qu'on est surchargé d'informations.
Ah ouais,
que le plus important, je pense, c'est d'écouter son intuition.
Alors voilà, c'est ce que je me suis dit. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et puis, vers la fin de ma grossesse, je me suis dit, en fait, je vais écouter mon instinct, ma pédiatre et that's it.
Et tu as eu raison.
Voilà.
Et ça s'est très bien passé.
Ouais, ouais. Enfin, mon gynéco d'abord, et après, enfin, mon gynéco, c'est très bien, et ensuite, ma pédiatre.
Et ton instinct de mère.
Et mon instinct.
Oui, parce que d'ailleurs, c'est prouvé, en fait, théoriquement, l'instinct de mère, c'est un médecin qui m'a expliqué ça, et prouvé médicalement, une mère, c'est ce qu'il faut faire pour son enfant, a priori. Hein ?
Alors, oui, alors ça, c'est un truc à prendre avec des pincettes, parce qu'après, ça donne trop le côté. Enfin, il ne faut pas que ça en devienne une manière de dire à la femme que elle sait faire et que l'homme ne sait pas faire.
Tu as aussi raison là-dessus.
Et ça, je veux pas qu'on en vienne à ça parce que t'as trop de mecs qui disent ah, mais toi, t'es la mère, donc tu sais comment il faut faire. Non, en fait, tu vois. Bref, on va pas repartir dans le débat. Mais oui, effectivement, moi, en tout cas, j'ai senti une forme d'instinct. Après, je peux me tromper. Les femmes l'appréhendent de manière différente. Oui, on devient mère, on ne naît pas mère, mais en tout cas, je pense qu'il y a un instinct. Je pense.
Je suis d'accord.
Voilà.
Alors, de la vie fœtale à la naissance, dans la vie fœtale, il se passe forcément quelque chose pendant cette période embryonnaire et fœtale, mais en fait, très peu dont on puisse dire. Donc,
d'accord.
Ça laisse probablement des marques, mais on ne sait pas.
Bah voilà, alors moi, c'est ma grande question, parce que si tu veux, j'ai quand même. Y a chacune à sa grossesse, etc., mais c'est vrai que je me suis toujours demandé si. Un choc vécu pendant une grossesse, tu vois, un choc émotionnel vécu pendant une grossesse avait des répercussions. Est-ce que on a moyen de le savoir?
C'est là où je te disais qu'il n'y a pas de relation de cause à effet direct. On ne peut pas savoir. Ça sert à rien de se dire 15 ans après, mon enfant est traumatisé parce que il s'est passé ça. En fait, on ne sait pas.
Ouais.
Ce qu'on sait, c'est que l'amour et la sécurité et l'affect, en fait, qu'on peut donner à l'enfant malgré un traumatisme éventuel qui peut être vécu. L'amour, l'affect et la sécurité sont des excellents médicaments thérapeutiques.
C'est ça.
Hein? Donc, un enfant, on a une adaptabilité en tant qu'être humain qui est extraordinaire. Enfin, on est extrêmement puissant en termes d'adaptabilité. Donc, surtout pas de relation de cause à effet direct. Hein? La vie n'est que mouvement, on évolue tout le temps, on ne sait pas comment ça se passe dans l'inconscient, dans le cerveau. Donc, pas de conclusion hâtive.
Ouais. Je vais essayer.
Oui. Donc, à la naissance, on ne sait pas vraiment non plus ce qui se passe. Donc, je t'ai parlé de la vie fœtale, là, c'est la naissance. Ce qui est certain, c'est que le bébé, à ce moment-là, confronté à des sensations radicalement différentes. Il est dans le noir, il est dans l'eau, il est nourri par cordon ombilical directement, il est au chaud. Il débarque dans une clinique, il fait froid, il a faim, il y a des gens, il y a des sons, il y a des images. Donc, on peut parler d'une forme de traumatisme à la naissance. Enfin, y a beaucoup de psy qui parlent de ça. Ensuite, de la naissance à quelques mois, période extrêmement importante, c'est la symbiose de la mère et de l'enfant. Hein ? C'est, en fait, l'enfant, à ce moment-là, c'est important de le savoir, ne se distingue pas du tout de sa mère et de son environnement.
Ouais, c'est ça.
Il a l'impression d'être une excroissance.
Ouais, une seule et même personne, en fait.
Exactement. Les intérêts du nourrisson sont l'alimentation et les câlins.
Ouais.
C'est la période qu'on appelle la période orale, en fait. C'est Freud qui a théorisé ça, où l'enfant va téter principalement. Et tu as dû le remarquer avec ton bébé, il va mimer la tétée.
Bien sûr.
Hein avec des phénomènes de succion, ça va le calmer. Il va trouver son pouce, par exemple.
Il paraît que ça apaise les battements du cœur.
Ouais.
J'ai lu ça, je sais plus quand, mais que le fait de téter permettait d'apaiser un enfant. Et d'ailleurs, c'est vrai, je l'ai constaté.
Oui.
Moi.
Bah, c'est pour ça que la tétine marche tellement bien.
Bah, hein. Ouais. D'ailleurs, il n'arrive pas à s'en défaire. Moi, je sais pas quoi faire avec cette tétine, mais bon.
L'entrée au monde se passe vraiment par une phase extrêmement orale. D'ailleurs, on pourrait même comprendre d'un point de vue biologique pourquoi ça marche, c'est que l'enfant, il a énormément besoin de se nourrir pour grandir. Donc, on comprend que tout soit localisé au niveau de l'oralité. Et au bout d'un moment, il va comprendre que cette fameuse tétée, cette tétine, cette succion qui fait le pouce est totalement inefficace.
Parce qu'il n'y a rien dedans.
Et seul le retour de la mère nourricière. Alors, quand je dis la mère, ça peut être la mère nourricière, le référent maternel.
D'accord.
À l'époque, c'était les mères, donc c'est très théorisé autour de ça. Enfin, c'était aussi des nourrices, d'ailleurs. Mais c'est la mère nourricière. Seul son retour va concrètement l'apaiser. Et c'est le moment où, en fait, il va commencer à amorcer une distinction entre l'imaginaire et la réalité. Il
c'est vers 8-9 mois, ça, c'est quand?
Non, c'est avant. Là, on est vraiment au tout début, on
donc
est jusqu'à 6 mois.
Ouais.
C'est avant même,
D'accord.
c'est de 0 à 6 mois.
D'accord.
Ce qui va se passer psychiquement, à ce moment-là, c'est très très important cette période. C'est donc, il va y avoir un maternage. En fait, de 0 à 6 mois, ça se joue entre la mère et l'enfant, hein, principalement. Enfin, le bébé, il dort, il mange et il a des câlins. Il n'y a pas vraiment de jeu, etc. À travers le maternage que Winnicott, le psychiatre dont je te parlais anglais tout à l'heure, va appeler le holding, c'est le fait de tenir dans ses bras, la mère va procurer une sécurité intérieure à l'enfant qui va être le socle de sa vie plus tard. Tu comprends ? C'est le socle qui se crée à ce moment-là.
D'accord.
La mère va occuper ce qu'on appelle une fonction alpha, ça c'est le psychiatre Wilfried Bion qui en a parlé. Elle va... Très important. L'enfant, en fait, au tout début, les neurones ne sont pas totalement reliés, enfin pas du tout d'ailleurs reliés entre eux. La mère va donner du sens à la vie, à ce que l'enfant ressent. C'est ça la fonction alpha. En l'apaisant, en le prenant dans ses bras, en le regardant dans les yeux, en lui parlant, en l'aimant, en fait, en le câlinant.
Je me permets de te couper, mais est-ce que du coup, il y a une distinction entre mettre un enfant dans une poussette, parce que tu vois, enfin, là, en t'écoutant, je me dis, mais il y a beaucoup de femmes qui veulent le porter, tu vois, enfin, qui ont des porte-bébés autour d'elles, etc. Est-ce que ça a vraiment un impact selon toi?
Le portage au tout début est plutôt recommandé. Enfin, de toute façon, c'est la période où la maman, pour les femmes qui choisissent d'allaiter, allaite. Ouais. T'as très souvent des bébés qui sont collés à leur mère, qui dorment avec leur mère. Je sais pas si c'est positif ou négatif. J'ai aucune opinion là-dessus. Je pense qu'il y a du bon comme du pas bon dans tout. Mais on sait que c'est une période, par exemple, en Afrique, ils les portent, tu sais, très très longtemps. Et dès qu'ils arrêtent de les porter, le bébé se met à marcher.
Ah oui, il n'y a même pas de phase de...
Très peu, mais ils sont portés vraiment longtemps. Hein.
Enfin, ouais, c'est ça.
Mais le portage a énormément de valeur, en fait.
D'accord.
Il y a zéro problème à mettre ton enfant dans une poussette. Hein. Ouais. Mais...
Non, mais c'est parce que je ne l'ai jamais fait.
Mais tu as plein de mères qui le font
pas. J'ai jamais mis en porte-bébé, en fait. Tu vois, je ne le faisais pas.
Tu as plein de mères qui le font. Tu l'as câliné, tu l'as porté,
tu l'as donné les biberons. Je n'arrivais pas à m'en décrocher, donc...
Bah voilà.
Non, mais...
Mais c'est une période psychiquement, là, on est vraiment sur le psychique.
Non, mais c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que c'est pas uniquement utilitaire, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est parce qu'au début, on peut croire que porter un bébé autour du ventre, bah, c'est utilitaire, au sens où t'as tes deux bras dispo. Mais c'est vrai qu'il y a certainement, à la base, tu fais bien de le rappeler, quand même
C'est pas pour rien que l'humanité a inventé le portage.
Bien sûr.
Enfin, ça date bien avant nous. Mm-hmm. Et en fait, parce qu'en fait, le bébé ressent tout comme un désastre. Quand il a froid, un désastre. Quand il a faim, c'est un désastre. Ouais. Quand il est fatigué, c'est un désastre. Ouais. Et la mère, ou la figure maternelle, va être capable de le réparer, ce désastre. C'est la fonction de la mère rassurante. Et ça, en termes de construction psychique, ça participe énormément à son évolution parce que ça va lui permettre de maîtriser ses affects.
C'est ça.
On est dans le début de la maîtrise des affects, on est d'accord. Hein.
Ouais. C'est pas tout de suite.
Mais ça va psychiquement.
Ouais, ça commence.
Un monde qui est extrêmement agressif, etc., va être beaucoup plus apaisé dans la vision du monde de l'enfant. Tu vois, il y a une capacité de symbolisation. Donc, parce que l'enfant à ce moment-là, comme je te disais, ne se distingue pas de sa mère.
Oui, bien sûr.
Tu vois, il a l'intuition de participer à l'univers. Freud parle de sentiments océanique, et le fait que la mère apporte ce socle intérieur va participer à sa sécurité et va lui permettre de rentrer dans l'individuation où le lien à autrui et pas que à sa mère va
développer.
Et c'est le moment où l'enfant va s'ouvrir au monde. Donc on est toujours entre 0 et 6 mois, il va commencer à sourire, donc ça c'est un mois et demi à peu près. À 3 mois, il va commencer à repérer son environnement. À 6 mois, ce n'est que à 6 mois, qu'il va commencer à percevoir unitairement son corps. En fait, avant, quand il voit par exemple sa main, il ne comprend pas que ça lui appartient.
Oui, je vois très bien.
Hein, tu as dû voir cette phase.
Ouais.
Et progressivement, il va se percevoir unitairement. Donc, les gestes vont se coordonner en vue d'une action. Il va commencer à marcher, enfin, d'abord le quatre pattes, etc. À 8 mois, il va capter qu'il est quelqu'un, qu'il est unifié. C'est la fameuse angoisse de séparation. T'en as entendu parler.
Avec la régression du sommeil en général qui va avec.
Bah, c'est angoissant pour lui. Il comprend qu'en fait, il est tout seul. Et tout le projet parental va être de conduire l'enfant vers la maturité. C'est là où, effectivement, c'est important de en tant que mère, de se commencer à se séparer. C'est en général le moment où la mère, par exemple, reprend le travail, quand elle sort de son congé maternité, elle va le confier à une personne tierce, nounou, crèche, grands-parents. Et tout le projet parental, toute notre vie, en fait, le projet pour nos enfants, c'est de les aider à être eux-mêmes, de les emmener vers la maturité, de le porter plus haut et plus loin dans son développement. À ce moment-là, vu que tout ça est extrêmement angoissant, c'est tout petit, hein, on n'imagine pas tout ce qui se passe. L'enfant va être soumis à des pulsions très très fortes, notamment agressive.
Ouais.
L'agressivité, c'est tout à fait normal. Elle fait partie de la
vie. Vers quel âge, là?
On est toujours avant un an.
D'accord, avant un an.
S'il n'y avait pas d'agressivité, il n'y aurait pas de vie. L'enfant ne marcherait pas, ne parlerait pas. Ce qui est c'est une énergie, c'est une pulsion qui, au départ, est agressive. C'est une pulsion de conquête, d'indépendance, d'affirmation de soi. Donc, l'agressivité, c'est normal. Et c'est à ce moment-là que l'interdit parental va être très, très important. C'est à ce moment-là. Et après, on va parler de Terrible 2 et compagnie, mais ça commence avant que l'interdit parental va être important pour canaliser les pulsions.
Vers un an?
Un peu avant même.
Ouais.
Ne mets pas tes doigts dans les prises et compagnie, c'est avant. Hein.
Ouais, enfin, bien sûr. Oui, t'as raison. Oh là là, mais j'ai plus de neurones ou quoi ? Bien sûr, ouais.
Non, oui, non. Oui, non, mais c'est parce que c'est non, très parce que, gros, parce que ça dure.
Oui, mais c'est parce que j'ai essayé de me rappeler à quel moment il avait marché, etc. Enfin, moi, il a marché tard. Enfin, à quel moment j'ai commencé à m'angoisser sur les portes, les trucs et tout. Mais effectivement, ouais, ouais, tu as raison.
C'est, mais en c'est fait, l'enfant, c'est important de comprendre que l'enfant n'est pas un être tout mignon. Tout... Enfin, ils sont très mignons, nos enfants. Ouais. Mais c'est un être qui a énormément d'agressivité en lui.
Le bébé est une personne.
Ouais. Exactement. Ouais. Donc, on a tous de l'agressivité en nous. L'agressivité, elle va être canalisée notamment par les jeux. Tu as dû remarquer avec ton enfant, cacaboudin, berk, tout ça, c'est pour canaliser l'agressivité ou des jeux où on tape sur des objets, pas sur des gens. Elle va donc être canalisée par ça. Ouais. Et l'agressivité va être évidemment canalisée par la loi, par l'interdit, par les limites. Mm. C'est le fameux débat sur les limites pour protéger l'enfant d'une excitation trop importante et d'une éventuelle mise en acte qui serait totalement inassumable pour lui. Le parent a pour fonction de protéger l'enfant.
C'est ça. Bah oui, mais on en avait parlé toutes les deux déjà sur la surpuissance que tu donnes à ton enfant quand tu lui donnes pas de limites, ça peut le, enfin, il peut se sentir perdu.
Et quand l'enfant fait le tout puissant, il faut l'ignorer sans le critiquer. Hein ? En fait, il faut jamais laisser un enfant provoquer cette émotion en nous. L'enfant n'est pas tout puissant. Personne n'est tout puissant sur Terre.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Et l'enfant, son unique but, c'est de créer des émotions. Il veut créer des émotions. Donc, il faut l'inciter à créer des émotions dans l'harmonie.
Ouais, ce qui n'est pas évident.
Le travail de parent n'est pas facile. Hein.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de ne pas laisser ce sentiment arriver dans l'esprit des parents. Enfin, c'est-à-dire le sentiment de dire « je le laisse faire ce qu'il veut », c'est ça ? C'est ça ?
Surtout, non.
Ouais.
Non, mais en fait, on le sait intuitivement.
Quand t'es fatigué, quand t'es épuisé, tu vois, c'est pas évident parce que, enfin, moi, je vois bien quand t'as le sentiment qu'à un moment t'es en fin de journée, je sais pas, moi, il est tard, t'es entre le repas et le coucher, il a envie de faire ce qu'il veut. Parfois, t'as envie de te dire bon bah fais ce que tu veux, tu vois.
Mais c'est normal.
C'est naturel finalement. Enfin, moi, il y a des phases où j'ai
si
la flemme, moi, de lui dire
envie...
non, fais pas ça, tu vois.
Si ton enfant il a envie de traverser la rue au feu rouge et qu'il y a des voitures,
tu le laisses pas
faire ce qu'il veut.
Bah non.
Il y a un interdit. Ouais. Là, en l'occurrence, il y a une question de vie ou de mort.
Ouais.
Que chez toi, tu le laisses faire ce qu'il veut parce qu'il a besoin d'explorer le monde. Enfin, on n'est pas là pour dresser nos enfants.
Ouais.
Il a le droit de faire n'importe quoi. On fait tout. Tu crois que nous, quand on est sur nos téléphones, affalés sur notre canapé, on ne fait pas ce qu'on veut ? Si. Mais l'idée, c'est l'ordonnancement quand même. C'est intégrer une forme de loi.
Oui,
on ne fait pas dans ce qu'on veut à table.
Ouais.
On ne coupe pas la parole aux grands.
Ouais.
On ne se permet pas de sortir de son lit à 4h du mat et demander à jouer.
Mais ça, on va en reparler, c'est sur la psychologie positive, enfin l'éducation positive.
Mais
on
au cours du développement de l'enfant, le pulsionnel va rencontrer des limitations. Et ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une dynamique qui est positive. Plus l'enfant renonce successivement à des choses qu'il n'aura pas, plus ça lui permet de rebondir au stade suivant. Et en fait, de bien se développer.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que je le vois pas encore.
Ton enfant est encore petit, Estelle.
Oui, mais parce qu'en fait, tu vois, j'ai souvent eu ce débat, c'est le fait de lui dire d'arrêter de faire quelque chose. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, j'ai pris l'option de dire, bah, pour éviter qu'il fasse quelque chose, je le distrais avec autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, et je me rends bien compte qu'à un moment, il va crier 3 secondes et puis il va se calmer parce que j'aurais détourné son attention sur autre chose. Mais ce moment-là, il est super dur finalement à entretenir, tu vois, parce que finalement, c'est répétitif dans la vie des parents. C'est permanent.
Je lisais une étude de l'Université de New York. Entre 2 et 16 ou 18 ans, je ne sais plus, un parent va être sollicité environ 15 000 fois. Donc, tu n'en es qu'au début.
Ça me paraît pas beaucoup, tiens.
Pour
je vois, c'est plus que ça. Oui,
bah, c'est beaucoup quand même, 15 000 fois, pour obtempérer à quelque chose, etc. Donc, 15 000 fois, on va être sollicité. Il y a beaucoup de psys pour enfants qui disent, par exemple, si votre enfant fait un caprice dans un lieu public, au milieu d'un café ou d'un supermarché, il ne faut pas céder.
Ah ouais.
Oui, faut le mettre à l'écart avec nous, lui parler, etc. Mais ne pas céder, c'est important. Ah ouais. C'est pas, je veux pas passer pour une mère fouettarde. Hein.
Non.
C'est simplement parce que ça l'aide, en fait.
Mais tu le sens bien d'ailleurs. Enfin, moi, je l'ai senti. Et puis, je vais te dire un truc. Alors, peut-être, on anticipe un peu sur le développement, mais c'est pas grave. Caroline Goldman, on en a parlé toutes les deux. C'est une femme formidable qui a un podcast d'ailleurs qui s'appelle. Éducation. Comment il s'appelle son podcast d'ailleurs ? Je sais pas.
Enfin, c'est le podcast de Caroline Goldman.
Voilà. C'est ça. Et donc en fait, elle a été fustigée parce que elle a parlé d'une notion qui est le time out,
ouais.
À savoir de quand un enfant fait quelque chose de entre guillemets pas bien, casse quelque chose, frappe quelqu'un, enfin peu importe, fait quelque chose de pas bien, le time out consiste à dire à l'enfant d'aller dans un endroit où clairement il est
mis à l'écart.
Et alors moi je l'ai fait.
Ouais.
J'avoue, je l'ai fait.
Bah, t'as raison.
Parce qu'il a, à un moment, fait un truc pas bien du tout. Je sais plus, je crois qu'il m'a tapé. Il a eu un accès de, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais on m'a dit que ça pouvait arriver, tu vois. Bon.
Bah, un enfant qui tape ses parents, c'est classique. Hein.
Ah ouais?
Bah, évidemment.
Ah bah, heureusement. Ouais, parce qu'il tape pas son père. Hein. Moi, il me tape moi, mais il tape pas son père. Donc,
ça viendra au moment de l'Oedipe.
Ah voilà. Bon. Chacun son tour. Et donc, je sais pas, à un moment, je revenais du travail, il me regarde et puis il me fait un bisou et poum, après, il me file une tarte. Donc là, je lui dis, bah non, il faut pas faire ça à maman. Et puis, j'ai fait le test et je lui dis, écoute, maintenant, tu vas aller dans ta chambre. Et ben, il m'a regardé et il s'est marré. Et suite à ça, j'ai pas compris pourquoi il se marrait. Donc, il est allé dans sa chambre de son plein gré. Il était très content d'aller dans sa chambre. Puis, il a fermé la porte tout seul.
Oui.
Et alors là, j'ai essayé de creuser. Je me suis dit, mais comment ça se fait qui prennent bien le fait que je lui dise tu es puni, tu vas dans ta chambre.
C'est exactement ce que je... Ouais, vas-y.
Tu vois, excuse-moi.
Non, je t'en prie.
Et ça m'intéresse d'écouter là-dessus parce que j'ai écouté ensuite une interview avec Boris Cyrulnik pour lequel j'ai un immense respect et que j'ai, limite j'adule, et qui disait si l'enfant est réceptif à ça et qu'il sourit à ce moment-là, ça veut dire qu'il accepte vos limites et qu'il est heureux qu'on le limite.
C'est
et
exactement
en fait,
ça.
Et j'ai trouvé que c'était un enrichissement, enfin que c'était un enseignement incroyable parce que je l'ai vérifié vraiment de manière hyper réaliste avec mon fils où bah, je lui dis non, tu es puni, tu vas dans ta chambre. C'est lui, il m'a regardé et il était content que je vienne lui dire qu'il ne fallait pas faire ça.
C'est faire du bien à son enfant que de le limiter. Il y a une image que j'aime bien. Quand on ne limite pas son enfant, c'est comme si tu le mettais au milieu de l'océan et qu'il ne voyait pas les côtes. C'est hyper angoissant.
Ouais.
Et le fait d'être contenu, le fait de voir les contours, en fait, c'est la notion du cadre. Le fait cadré, c'est extrêmement rassurant.
Ouais.
Donc, évidemment que ça ne sert à rien d'avoir un cadre trop petit.
Non, bien sûr.
Les limites, on peut en parler. Si les limites sont trop fortes, si on limite trop l'enfant dans ses pulsions agressives, l'enfant va devenir inhibé. L'inhibition, c'est le revers de l'agressivité. Ce n'est pas bon, un enfant inhibé. Hein.
Ouais.
À l'inverse, si tu ne limites pas assez l'enfant dans ses pulsions agressives, l'exemple que tu me donnes avec ton fils qui te tape, évidemment que tu vas le limiter dans cette pulsion, enfin, je te le souhaite. Si tu ne limites pas, c'est ça qui donne des enfants amoraux. Tu vois ce que je veux dire? Qui n'ont pas de morale.
Non, qui ne savent pas dissocier le bien du mal ou dissocier ce qu'il faut faire ou pas faire en société.
Des enfants qui sont égoïstes, qui sont simplement dévoués à eux-mêmes,
aucune
à leurs
empathie,
pulsions. Absolument pas d'empathie.
Ouais.
Et d'ailleurs, qui se permettent de répondre, etc. Et plus tard, ça leur créera des problèmes immenses.
D'accoutumance à la vie sociale, en fait.
Impopularité, exclusion, mésestime de soi, perversité, déprime. Enfin, je ne veux pas...
Ouais, bien sûr.
Je veux pas angoisser les gens,
mais
faut quand même faire attention. Donc, en fait, tu lui fais du bien en le limitant.
Mais ce n'est pas facile. Hein.
Non, c'est très dur.
Et ça n'est que le début, Estelle.
Et ça n'est que le début. Justement, rentrons dans la petite enfance.
C'est ça.
Hein?
Donc, c'est le 0-4-5 ans, c'est ça?
Non, c'est le 1 an et demi, 6 ans.
Excuse-moi, excuse-moi, d'accord.
Oui,
1 an et demi, 6 ans. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est la petite enfance de 1 an et demi à 6 ans.
Okay. C'est ça.
Okay.
Donc, on a compris, l'enfant distingue à présent la réalité, il repère sa mère, il repère son père, il se repère lui-même, il développe les autres.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Le fait de développer, de repérer les autres, d'ailleurs, va faire émerger deux problèmes, qui sont ceux de 2 ans à peu près. Il va comprendre qu'il y a d'autres gens, donc il va commencer à rentrer en rivalité et jalousie.
Ouais.
Et aussi la problématique du sevrage, un petit peu
avant,
qui va être source de frustration importante.
On y est depuis longtemps. Pour moi, le sevrage, c'était un peu plus tôt.
On va dire un an et demi. Quoi.
Ouais.
Donc, cette petite enfance, c'est la phase du terrible tout. C'est la phase de conquête de l'indépendance, Les objets qu'on crée autour de lui se stabilisent, ils deviennent solides, ils deviennent durables. Le langage va se développer.
Alors hein ? Ça, oui. Ça, c'est fou. Moi, je suis hallucinée.
Et un des premiers mots que l'enfant va prononcer, c'est le mot « non ».
Ah oui. Ah hein, oui.
Tu l'as remarqué ?
Ah bah oui, oui, oui. C'est non à tout.
Mais c'est excellent, en fait, parce que l'enfant va devenir lui-même. Il va user de la possibilité de s'opposer, de dire qui il est. C'est le... En fait, à partir du moment où le « non » rentre en compte, le « je », « je », entre en compte.
On devrait nous le rappeler, ça, quand même, quand on vieillit, tu veux que je te dise. C'est apprendre à dire non et identitaire.
Exactement. Et c'est donc le moment, et on est en plein dedans ce que tu racontes, où la relation avec la mère va se conflictualiser. Hein, parce que, et c'est à ce moment-là que l'enfant va commencer à développer donc, cette agressivité aux autres parents et va devenir ambivalent. Ambivalent, il va tantôt adorer, tantôt détester. Tu vois ?
Oui, ouais, je vois bien, ouais.
Et c'est l'entrée, en psychologie, tout à l'heure, on parlait du stade oral, c'est l'entrée dans le stade anal.
Sympa.
Alors, pourquoi ? Effectivement, c'est pas très beau, mais pourquoi ? C'est effectivement le moment où l'enfant va acquérir la propreté,
ouais.
Donc va commencer à maîtriser ses sphincters.
Ouais.
Et pourquoi est-ce que c'est théorisé en psychologie ? Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir deux attitudes possibles qui vont se développer dans l'enfant. C'est là où l'ambivalence va vraiment se marquer. Ou il va se soumettre, ou il va refuser. La selle va devenir une valeur et une monnaie d'échange pour faire plaisir ou s'opposer aux parents. Les parents sont complètement fascinés par « Ah, il a fait caca », etc. » Et l'enfant va totalement le comprendre. Donc, en fait, il va utiliser cette monnaie d'échange pour organiser des relations avec ses parents, manipuler, être manipulé, maîtriser ou être maîtrisé.
Ah ouais.
Oui, c'est très puissant.
Tu veux dire qu'il a son psychique a une influence sur son tube digestif.
Ah ben, alors, sur le tube digestif, je ne dirais
pas,
mais
sur
la maîtrise du sphincter, c'est une monnaie d'échange énorme pour lui. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Ben, à la base, c'est important enfin, de faire la selle. L'enfant l'a tout à fait compris. Donc, le non va devenir net.
Ouais.
Et la relation va évoluer favorablement si les parents acceptent le refus et la capacité de l'enfant à garder pour lui.
Ouais.
L'enfant va comprendre qu'il a une forme de pouvoir sur les autres, sur le monde. Il va dire non, il va s'opposer. Et progressivement, il va comprendre que c'est dans son intérêt d'aller à la selle pour lui et pas pour ses parents. C'est le moment où la propreté va s'acquérir. L'intérêt va cesser de se porter sur la défection, et le déclin du stade anal va se produire.
Ouais, je vois très bien.
C'est intéressant.
Ouais, ouais. Bah, c'est très intéressant. Bah, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas bloquer les enfants. C'est-à-dire que la propreté, il ne faut pas en faire toute une affaire.
Non, surtout
pas. Parce que souvent, tu les bloques et puis c'est psychique après.
Bah, ils vont comprendre que c'est une monnaie d'échange, un
et
instrument
ça peut,
de pouvoir sur les parents.
Bah, c'est ça. C'est qu'après, ça peut déclencher des pipis au lit longs,
oui,
enfin,
ça peut
pendant
effectivement
longtemps,
provoquer des symptômes autres.
Non, mais donc, il ne faut pas. C'est vrai qu'on m'a conseillé, je ne sais plus qui, mais m'a conseillé de ne pas faire de blocage sur. Le pot.
Oui.
Donc, on ne va pas faire de blocage sur le pot. Et moi, j'en fais pas toute une affaire d'état, en fait. Si ce n'est qu'il rentre à l'école bientôt et qu'il est censé être propre. Bientôt.
Mais d'ailleurs, très souvent, les enfants, quand ils rentrent à l'école, deviennent propres par eux-mêmes.
Ouais.
Parce qu'en fait,
ils n'ont pas envie de se retrouver avec une couche pleine ou de faire pipi sur eux.
La loi commune, l'ordonnancement, l'agencement de la société. Ils intègrent très facilement.
Ouais, ouais.
Donc, il faut faire confiance, en fait.
Oh, ouais, je ne me stresse pas trop là-dessus.
Après, tu as la période de 3 à 5, 6 ans. Donc là, on est dans le stade phallique, en langage psy. Donc, c'est le moment où, en fait, l'enfant va commencer à comprendre la différence des sexes. Ça ne se fait pas vraiment avant, finalement. C'est un moment, en général, où l'enfant est très ou exhibitionniste ou très pudique. Au contraire, il va capter son corps. Alors, pourquoi on appelle ça le stade phallique ? Je fais une précision, le phallus n'a strictement rien à voir avec le sexe masculin. Le phallus, c'est un objet imaginaire et symbolique qui est extrêmement complexe, qui symbolise la puissance, la complétude, la loi, la force. Et en fait, toutes les relations de l'enfant, sa vision du monde, c'est le moment où l'enfant... En fait, tu l'as ou tu l'as pas, le phallus. T'es fort ou t'es pas fort.
C'est binaire.
T'es méchant
binaire,
ou t'es gentil. T'es grand ou t'es petit. T'es beau ou t'es moche. Tout est extrêmement binaire.
Tu vois très bien, ouais.
Donc ça, c'est entre 3 et 5 ans. Et c'est le moment, très très important, de l'entrée dans l'Œdipe. Donc l'enfant va progressivement tomber entre guillemets amoureux, hein, mm-hmm. C'est pas du vrai amour. Enfin si, c'est du vrai amour,
il
mais c'est pas
son père et puis il va aduler sa mère. En gros, c'est à peu près ça.
Pour le garçon, mais pour ouais. la fille, c'est l'inverse.
Ah bah oui, c'est l'inverse. Ouais. Ouais.
Donc ce qui est important d'ailleurs, c'est qu'au tout début, ça c'est Freud qui l'a développé, le vrai objet, le premier objet d'amour de la fille comme du garçon, c'est la mère. Donc l'Œdipe va être différent parce que la fille va devoir renoncer en premier lieu à l'amour de sa mère pour se projeter vers son père. La fille va comprendre qu'elle n'a pas le sexe masculin et elle va comprendre en revanche qu'elle a la possibilité d'enfanter. Mmh. Tu vois elle va capter ça progressivement.
D'où le fait de jouer à la poupée avec...
Ouais. Et le fait de pouvoir enfanter va devenir une force. Elle va se tourner vers son père. Elle va prendre un rôle féminin. C'est là où les petites filles rentrent dans la coquetterie, la minauderie, ouais, de ça. Façon générale. Ça va se heurter. Alors, le plus important, effectivement, à l'interdit de l'inceste, hein, mmh. qui est l'interdit fondamental, évidemment. Le refus du père. Et ce refus et cet interdit vont apaiser la fille et lui permettre de sortir de l'Œdipe et de rentrer dans la latence. Donc, la période okay. de 7 ans. Le garçon, lui, ça va être un peu différent. Parce que le garçon, il va garder l'objet d'amour premier, qui est celui de la mère. Il va entrer en rivalité avec son père, avec, on parle souvent de la menace de la castration. Mmh. À ce moment-là, le petit garçon a très, très peur de son père, parce qu'il a peur que son père le castre, vu mmh. qu'il est amoureux de sa mère. Mmh. Tu vois
ouais,
donc, il y a une rivalité qui va une agressivité contre le père qui va augmenter. Et lui aussi va renoncer à l'Œdipe avec l'interdit de l'inceste et le refus de la mère, pareil, mais dans l'autre sens, qui vont apaiser son angoisse.
Mais si tout se passe bien, j'ai envie de te dire.
Ouais. En fait, tout se passe jamais vraiment ouais. bien.
Parce que là, les schémas en question, ils sont rarement d'abord, je pense, sus et connus des parents. Parce que ce que tu nous expliques là... ça peut être limpide pour plein de gens, mais ça peut être du charabia pour beaucoup.
Bah, l'interdit de l'inceste, quand même l'interdit fondamental absolu de toutes les sociétés.
Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que ça se joue à cet âge-là.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ?
Alors en fait, on le sait intuitivement, parce que le petit garçon va dire « Maman, je veux me marier avec toi », et la fille va dire « Papa, quand est-ce qu'on se marie ?»
Oui, mais j'ai envie de dire que si tu n'as pas expérimenté la parentalité, tout ça, tu ouais. le découvres. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, en soi, oui. tu ne peux pas le savoir si tu ne l'as pas appris. Donc,
tu le découvres progressivement, mais encore une fois, l'intuition et l'instinct, je t'assure, sont les meilleurs...
Mais c'est des choses que tu apprends. Enfin, là, tu vois, tu nous en parles de manière théorique, mais je pense que plein de gens ne l'ont pas appris de manière théorique.
Ils le découvrent.
Enfin, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est bien d'avoir le schéma en tête, et merci de nous le rappeler. Comme ça, au moins, quand on le vit, on est moins surpris.
Oui, et sur l'Œdipe, simplement pour compléter une petite parenthèse, pourquoi c'est théorique, mais pourquoi les filles en général accèdent plus vite au langage que les garçons ? Parce qu'elles doivent plus vite s'extérioriser, vu qu'elles passent de la mère au père. Comme je te disais tout à l'heure, le premier objet d'amour, c'est la mère. Mmh. Et qu'elles doivent aller vers le père. C'est une extériorisation. Tu vois, c'est un mouvement.
Et pour le fils aussi, du coup ?
Non, parce que le fils, il garde le premier objet d'amour. C'est la différence entre
ça,
la fille et le garçon.
C'est ça.
Et c'est. Puisqu'il y a cette extériorisation obligatoire qui se fait, c'est une des raisons pour lesquelles les filles parlent plus vite que les garçons. Parce qu'il y a eu un mouvement vers l'altérité qui est obligé de se faire et qui passe par le langage.
Et tu veux dire que si un garçon parle plus vite, il y a un sujet là-dessus ?
Non, t'inquiète pas.
Non, parce que mon fils parle très très bien. Donc en fait, là,
il a 6 ans, 6-7 ans.
Et donc là, on rentre dans la latence, c'est ça ?
Si tout va bien, l'Œdipe s'est bien passé, mais en général, ça ne se passe pas forcément ouais. très bien, parce que comme je te disais, c'est vraiment compliqué.
Et tu récupères les pots cassés en séance après.
Voilà. Les interdits sont posés, les interdits sont assimilés, ce qu'on appelle le surmoi. Le surmoi, c'est effectivement le monde des interdits est élaboré.
Ouais.
Et l'enfant va pouvoir entrer dans la latence jusqu'à 12 ans, donc jusqu'à l'entrée dans l'adolescence. Mmh. C'est une période, en fait, on ne va pas forcément parler longtemps, c'est une période extrêmement stable par rapport aux problèmes psychologiques. Hein. Enfin, les enfants ne sont pas forcément stables, enfin, les enfants ils bougent tout le temps.
Bien sûr.
Donc c'est le moment où l'enfant renonce à l'amour pour le parent opposé qui va se transformer en tendresse. Mmh. Mmh. La loi est assimilée, elle permet à l'enfant de trouver sa place, une place. Voilà, il cherche sa place à ce moment-là, il se calme. C'est le moment en fait de l'entrée à l'école, c'est le moment où la logique va pouvoir se développer. Développement de la lecture, développement des mathématiques, développement intellectuel. Beaucoup moins de questions métaphysiques. c'est une période de calme. En fait, c'est fini à ce moment-là, la période des énormes questions métaphysiques, et qui va reprendre à l'adolescence.
Ouais.
Tu vois ?
D'accord, ok.
Voilà, c'est l'adolescence, on en parlera plus tard.
Ok. Qu'est-ce qui est irréparable, selon toi, Alix ? Quelles sont les grandes, on va dire, les grandes limites à essayer d'avoir présent à l'esprit, présente à l'esprit quand on est parent ? Je pense également à la fratrie ou au fait d'avoir des petits frères, des petites sœurs, des grands frères, des grandes sœurs. Et qu'est-ce qui suscite l'équilibre chez un enfant finalement ? Tu vois ce que je veux dire ? Encore une fois, là, on parle des enfants jusqu'à l'adolescence. Hein, je parle pas d'après, mais selon toi, voilà, avec ton pur bon sens, qu'est-ce qui fait qu'un enfant peu ou prou a acquis une forme d'équilibre ?
Oui.
Tu vois ?
Alors, moi, l'irréparable, c'est ma conception de la vie. J'y crois pas. Enfin, parce que je trouve que c'est extrêmement triste de voir la vie comme ça. Pour moi, la vie est mouvement et tout peut tout le temps, à n'importe quel âge, être...
Dieu merci.
Dieu merci. Hein.
Ouais.
Néanmoins, que ça ne serve pas non plus de caution... Enfin, il y a quand même des choses... Comment ?
Pour faire n'importe quoi.
Exactement.
Ouais.
Le pire, en fait, pour un enfant, c'est de la négligence et des abus. Enfin, clairement.
Ouais.
Et plus c'est tôt, enfin, tu as écouté ce qu'on vient de dire, plus c'est tôt, plus ça fait mal. Plus l'enfant est petit, plus ses structures se positionnent.
La négligence, c'est le fait de ne pas s'occuper de son enfant. C'est le fait de ne pas passer du temps avec lui. C'est quoi de la négligence ?
Alors, il y a effectivement, enfin, c'est un sujet important. La négligence, c'est ce que tu dis, c'est le fait de le négliger, de peu s'occuper de lui. Je suis très très contre les écrans à la maison parce que je pense que c'est un fléau en fait aujourd'hui. Donc c'est par exemple le fait de passer.
Je lui mets des dessins animés. Moi, j'ai honte, mais je.
Non,
fais.
Je te parle pas de ça. Bon, c'est pas méchant un dessin animé. Non, je te parle effectivement de nous en tant que parents quand on passe notre vie sur nos écrans et qu'on n'écoute pas nos enfants, qu'on les néglige.
Ouais.
Pour moi. Ça, je ne le mets évidemment, je trouve ça pas bien,
non,
mais je le mets absolument pas sur le même plan que de la maltraitance,
bien sûr.
Que des abus.
Non, mais bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire. Enfin,
mais le truc facile qui consiste à dire que t'as ton enfant quelque part et que papa et maman sont sur leurs écrans et.
C'est terrible.
Et en plus, ouais, mais enfin, c'est terrible déjà pour le couple, mais encore plus pour l'enfant.
C'est vraiment. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, un enfant, il peut digérer une scène de traumatisme. À la condition qu'il y ait de l'amour et de la sécurité autour de lui.
Mmh.
En fait, ce qui est, entre guillemets, irréparable, c'est la récurrence. Tu vois, c'est l'environnement, c'est la récurrence. C'est, l'amour, l'affect et la sécurité, ce sont finalement les meilleurs médicaments, si on peut dire. Enfin, ce sont les meilleures façons d'élever un enfant équilibré. Tu parlais de comment rendre un enfant équilibré en l'aimant, en prenant attention à lui. Et... ce n'est pas le centre du monde. C'est-à-dire,
c'est
un enfant reste à sa place. C'était Françoise Dolto qui disait ça, qui expliquait « Les parents doivent continuer à vivre leur vie. Maman, elle a sa vie de maman. Papa, il a sa vie de papa. Toi, tu as ta vie d'enfant. Tu comprends ce que je veux
Bien
dire
sûr.
Un enfant n'est pas tout puissant.
Mais d'ailleurs, c'est très vrai ce que tu me dis, parce que j'ai fait un test aussi. Enfin, excuse-moi de revenir toujours un petit peu sur mon expérience terrain.
Mais t'as raison.
Mais c'est que j'ai expérimenté ça en lui disant... moi, je dis les choses clairement, vu qu'il est dans sa phase où il me dit « C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ?»
Oui.
Toutes les deux secondes. Bah, à un moment, il me montre une bouteille de vin sur une table. On était en train de dîner, je sais plus. Il y avait une bouteille de vin. Et c'est relativement exceptionnel chez nous, mais c'est principalement le vendredi soir. Et il me dit « C'est quoi ça ?» Il dit « C'est du vin, c'est pas pour toi, tu es trop petit, tu n'en bois pas. »
Point.
Oui. C'est pour les grands.
Mmh.
Il est passé à autre chose.
Mmh.
Et depuis, maintenant, il me montre la bouteille et il me dit « Alors ça, c'est pas pour moi.
Oui.
C'est pour les grands.
Ben, c'est très bien.
Ben, j'étais sidérée, tu vois. Ce que je veux dire, plutôt que dire « Non, touche pas » ou « Non, c'est pas pour toi ». Enfin, on peut être pris au jeu, tu
D'ailleurs,
vois.
D'ailleurs, par rapport au « Non, ne touche pas »,« Non, c'est pas pour toi », je me permets une parenthèse.
Ouais.
Pour les parents, évitez d'utiliser la négation. Parce qu'en fait, l'enfant, le cerveau de l'enfant n'entend pas le « ne pas ». Le « ne pas », il va arriver dans le cerveau très tard. Je peux pas dire à quel âge, mais c'est assez tard. Donc en fait, non, ne touche pas, il va entendre touche.
Ah ouais.
Ne fais pas ça, il va entendre fais ça. L'inconscient ne comprend pas la dénégation. Donc au lieu de non, ne touche pas.
Non, mais moi je lui dis, je dis là tu peux te faire mal au doigt.
Exactement.
Là tu peux te brûler. Là tu peux te.
Exactement.
Enfin, c'est plutôt dans l'explication que dans la négation. Voilà.
Et tu as raison.
Mm.
Tu as raison.
Bon.
Donc. je rebondis sur sur ce que tu me demandais sur l'équilibre de l'enfant. On peut rebondir. On a dit qu'on en parlerait sur le Good Enough Mother de Winnicott, hein, qui résume exactement ce que je suis en train de te dire. C'est donc en français, on appelle ça la mère suffisamment bonne. En fait, c'est la mère qui sait donner des réponses équilibrées au nourrisson et à l'enfant, ni trop, ni trop peu. La mère qui n'est pas assez bonne, elle laisse l'enfant en souffrance et dans l'angoisse. Hein, ça me paraît plutôt évident. Mais la mère qui est trop bonne, elle répond trop aux besoins de l'enfant et en fait, elle n'est pas bonne non plus. C'est ce que Winnicott explique.
Ça a été mon problème, ça.
Elle est dangereuse, cette mère, d'une certaine façon.
Oula, je suis dangereuse.
Non, t'inquiète pas. Tu aimes ton enfant. Mais en fait, elle ne le laisse pas assez ressentir. On va revenir sur cette notion de manque, hein, qui est essentielle à la constitution, qui est finalement la sensation de toute puissance, d'omnipotence de l'enfant qui est renforcée. Ah, tu veux ça? Ah bah oui, bien sûr, mon chéri. Bah non, non, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Tu comprends ce que je veux dire?
Non, ça, je ne fais pas ça.
Et c'est effectivement, c'est toute la force, le plus beau, c'est que l'imperfection à répondre immédiatement à l'enfant l'aide dans son développement parce qu'elle lui permet à assimiler la loi, à assimiler la limite, à assimiler la frustration qui sont essentielles à l'être humain.
Mais dans la notion de good enough mother, il y avait quand même la notion aussi de dire qu'une mère imparfaite est mieux qu'une mère parfaite. C'est-à-dire que c'était plus le fait de dire t'as le droit de te mettre à pleurer devant ton fils si ça va pas, t'as également le droit d'en avoir marre, t'as également le droit de dire la maman elle est fâchée ou elle est fatiguée ou t'as quand même le droit de t'exprimer, c'est-à-dire que
c'est même pas que t'as le droit, c'est que
il
pour
le
l'enfant
faut.
C'est bon en fait.
Et je pense que enfin moi je l'avais lu sous cet aspect-là, c'est-à-dire le fait de dire t'as le droit à un moment ou un autre d'être un individu qui a ses failles, d'être un individu qui montre à son enfant aussi ses émotions. Et je l'avais lu comme ça, peut-être que je me suis trompée, mais
je l'avais
lu comme ça.
Il y a les deux, et ça, cette notion est extrêmement importante. En fait, le meilleur cadeau que tu puisses faire à un enfant, c'est être toi-même, c'est être authentique.
C'est ça.
Évidemment, en essayant de donner le meilleur de toi-même.
Oui.
Enfin, évidemment. Oui. Mais toutes les émotions...
Tu vas pas te... Non, on est d'accord.
Mais en fait,
mais ceci dit, ça vient naturellement.
Enfin, mais c'est la vie, tout simplement. Ouais. Enfin,
ça vient relativement naturellement. T'as pas envie de te montrer sous un mauvais visage à ton enfant.
Mais il s'agit pas non plus de se travestir.
Oui, bien sûr. Mais de. Non, mais c'est vrai que tu viens de m'éclairer sur un sujet. C'est le fait de se dire que on a souvent des. Quand on est mère, on nous a inculqué. Enfin, quand je dis on, nous, c'est absurde puisque c'est très flou. Mais on pense savoir des choses qui sont complètement déconstruites au fur et à mesure du temps. Et les référents, finalement, ont énormément changé. Et moi, c'est ça qui me perturbe beaucoup.
Oui.
C'est que j'ai envie de dire que ce que nos mères faisaient, pensaient, n'est plus du tout d'actualité.
C'est pour ça que je disais en amont de prendre cet épisode avec des pincettes.
Ouais.
Si ça se trouve... regarde quand même l'humanité, elle a vécu sans ses grands principes pendant des millénaires. Et si ça se trouve, tout ce qu'on est en train de raconter...
C'est inadapté, enfin, ce sera peut-être pas adaptable dans 15 ans, 20 ans, ce sera peut-être pas vrai, quoi.
Oui, mais c'est peut-être faux, en fait. Enfin, évidemment, enfin, c'est ce que je disais, la psychologie, c'est une science humaine. Pour le moment, on pense que, mais c'est ce que je te disais aussi, vraiment, le bon sens, l'instinct et l'intuition, c'est ce qu'il y a de plus thérapeutique.
Ouais, mais alors, il y a un truc en plus qui m'a vraiment... Et là, je t'en parle, puisque c'est quand même le sujet aussi, on est deux mamans, mais indépendamment du fait d'être mère, c'est-à-dire que j'ai lu un article sur LinkedIn, je crois, une femme qui prenait la plume, et j'ai trouvé ça passionnant, elle a un podcast aussi, et elle disait une chose très vraie, c'est qu'à l'époque, les femmes, les enfants arrivaient quand ils arrivaient. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le choix d'être mère. Elles devenaient mères parce que c'était comme ça et que pour plein de sujets, pas de pilule, l'avortement, enfin bref. Et aujourd'hui, du fait qu'on soit nous-mêmes maîtres de la situation, on a une forme de chape de plomb quand même en plus.
Je suis complètement d'accord.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, je vois bien qu'à l'époque, les mères pouvaient très bien dire « Oh, j'en ai marre. Oh, ça me saoule. Oh, ceci. Oh, ce... » Et elles ne se sentaient pas coupables de le
faire.
Mais
parce qu'il n'y a pas de problème à dire ça.
Ouais. Mais oui, mais c'était vrai pour nos mères, puisqu'elles n'avaient pas le choix que de devenir mère. Enfin, je résume hyper de manière très basique. Hein, mais nous, aujourd'hui, vu qu'on a le choix d'être mère, on s'interdit.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire on s'interdit un peu plus certaines choses.
Parce qu'on est dans une société de culte de la performance. Il faut être une mère parfaite. Il faut être je ne sais quoi.
C'est ça. Mais qu'en plus, on a une surinformation, tu vois. Où on se dit, bah, si franchement, tu n'y arrives pas, ma pauvre fille, c'est... T'es pas capé.
Revenons à cette notion de Winnicott, de mère suffisamment bonne. La bonne mère, c'est la mère justement qui n'est pas trop bonne, qui n'est pas parfaite. Ouais. La mère parfaite, elle est vraiment, elle est toxique pour l'enfant. Je le pense sincèrement.
Et je pense qu'il y a un lien à faire sur l'éducation positive. C'est-à-dire le côté mère parfaite, tu vois ce que je veux dire ?
Complètement.
Où là,
d'accord.
On dit, bah, je suis une mère parfaite parce que finalement, je ne fais pas d'erreur à l'égard de mon enfant. Donc, c'est quoi les erreurs ? C'est de lui dire non, c'est de le frustrer, c'est de l'empêcher de faire quelque chose. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet-là, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pourquoi on en est venu à l'éducation positive ? Pourquoi nous, tu vois ? Pourquoi c'est pas venu il y a 40 ans ?
Ouais. Alors, on en est venu parce qu'il y a eu une émergence de la psychologie de l'enfant.
Ouais,
et en fait, les bases de l'éducation positive, à l'origine, les théoriciens de cette éducation positive ont mis l'accent sur trois piliers avec lesquels je suis 100% raccord. Premier pilier, le besoin d'amour. Deuxième pilier, le besoin d'explication, donc hérité de Françoise Dolto, le langage. Troisième pilier, le besoin de limites. Et c'est très bien. Le problème, et c'est ce que Caroline Goldman dénonce, c'est que le besoin de limites, le troisième point, a été un peu perdu en route. Sous prétexte qu'il ne faut pas faire du mal à l'enfant, sous prétexte qu'il faut offrir une liberté totale à l'enfant, sous prétexte que... Tu vois,
c'est très américain ou pas ça ?
Ça vient
des
États-Unis.
Ça vient quand même des États-Unis.
Mais c'est quand même eux qui ont théorisé les trois piliers. Enfin, c'est comme nous en France aussi qui avons un peu jeté à la trappe le besoin de limite. En fait, au départ, c'est vrai. En fait, pourquoi ? Parce que probablement que les parents d'aujourd'hui, comme tu dis, où on a le choix de faire un enfant, etc., fantasment, rêvent d'un enfant, d'une relation où il n'y aura pas d'agressivité. Et c'est vrai que la première année, il n'y a pas d'agressivité. Enfin, à peu près, c'est l'enfant, il est dans son lit.
Mais tout comme on m'a dit, il n'y avait pas de caprice avant un an.
Mais c'est vrai.
Et c'est vrai.
C'est-à-dire
que l'enfant, jusqu'à ses un an, a des besoins. Il n'a pas de caprice.
Et c'est pour ça que, justement, il est dans une relation très symbiotique avec la mère, que j'encourage, etc. Mais en fait, on évolue. Enfin, l'enfant évolue tout le temps. Et il y a un moment où l'enfant rentre dans sa phase d'opposition et c'est le moment où les limites sont importantes à positionner. Et il y a un fantasme que cette passade n'existe pas. Tu vois
ça.
Ce que je veux dire ? Mais c'est un monde de bisounours. Enfin, clairement, c'est un monde où l'enfant serait le bon petit sauvage d'une certaine façon.
Ouais, puis c'est surtout que, comme tu le disais, ça va se retourner contre lui à un moment ou un autre.
Mais c'est toute la thèse de Caroline Goldman. Enfin, c'est ce qu'elle explique, en fait, que c'est pour le besoin de l'enfant, que c'est une réponse pour un bienfait. C'est rendre service à son enfant que de ne pas tolérer ces pulsions agressives.
Oui, mais là, tu vois, je me permets encore une fois de te couper. Je veux pas te faire perdre dans ton développement, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est aussi une génération de parents. Parce qu'en fait...
C'est faute à nous, collectivement, en tant que parents, oui.
Non, mais on va me prendre pour une réac, mais j'assume. Mais c'est ce côté... on n'a pas envie de conflit, on n'a pas envie d'en...
Ouais.
Tu vois, on n'a pas envie de passer pour des... Comment dire, dans une société patriarcale, on n'a pas envie de faire subir une autorité, on n'a pas envie de faire subir en rejet justement de cette société patriarcale. On se dit, bah, c'est pas bien si je suis un parent trop dur, c'est pas bien si je suis un parent trop masculin ou trop
autoritaire. Parce qu'on est dans une société où on voudrait,
autoritaire, tu vois,
où on a ce fantasme que l'agressivité n'existe pas. On voudrait que tout se passe bien, que tout soit cool.
Alors qu'il
n'y
a jamais
vrai.
Autant de violence,
bah,
tu vois.
Mais
c'est ça.
Mais c'est justement
donc c'est
pour ça
que je veux faire comme parallèle, tu vois. C'est l'air de dire, bah, à un moment, le fait de ne pas assouvir cette violence, à un moment ou un autre au sein de la famille, bah, elle va s'exprimer ailleurs, à un autre moment, et de manière complètement décuplée potentiellement.
Tu as complètement raison. C'est un énorme sujet dans le champ de la psychologie. En fait, les psychologues aujourd'hui font, quand ils font l'état des lieux de la société dans laquelle on vit, ils parlent de société post-POST, après, parce qu'ils constatent qu'on est en train de changer de paradigme. Bah, je te propose qu'on parle justement de la fonction du père.
Ouais.
En fait,
allons-y.
Ils sont en train de constater qu'aujourd'hui, on est dans une société où la fonction du père, le père n'étant pas forcément le géniteur, hein, où la fonction du père est en train de s'effondrer. Mmh. Et ce qui crée effectivement cette absence de limite, cette absence de canalisation de la pulsion, parce que c'est vrai qu'on sort d'une société patriarcale. Il y a un mouvement de société là-dessus. Et d'ailleurs, je considère que c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais la dérive de ça, c'est effectivement qu'il n'y ait plus de référence. Parce que le père, il sert à quoi? Donc le père, je fais une parenthèse, donc ce n'est pas forcément le géniteur, ça peut être un oncle, ça peut être un parrain, ça peut être un grand-père, ça peut même être un personnage fictif, par exemple Dieu. Dieu le père. Dieu, c'est un homme dans nos religions monothéistes. Ou un ancêtre idéalisé, tu vois. Le père, pourquoi est-ce qu'il est tellement important? Déjà, il sert de tiers séparateur, c'est-à-dire que c'est lui qui va aider à la diffusion mère-enfant et qui va barrer la route à la toute-puissance de l'enfant. Tu comprends? Parce que la mère, par définition, ne peut pas être et maternante et limitante. Elle peut, mais ça marche pas très bien quand c'est exactement la même personne.
C'est très dur. Besoin... Bah, on le voit pour les femmes qui sont mères célibataires.
Et en plus, la mère, pour l'enfant, peut elle-même être ressentie comme toute puissante. Si on bascule de l'autre
c'est
côté.
C'est ça. Et ça peut être terrible.
C'est hyper angoissant. Une mère omnipotente, donc le père va aussi canaliser l'angoisse de son enfant en apportant une altérité, en apportant une différence. Il va progressivement faire comprendre à l'enfant que la mère ne lui appartient pas totalement. Il va le soulager d'une position intenable. Tu vois?
Bien sûr.
Donc ça va participer à la construction de l'individuation. Il va aussi, le père, c'est ce que je faisais, porter la loi commune. C'est lui qui pose les interdits. C'est lui qui vient limiter, canaliser.
Voilà.
Parce que comme je faisais, la mère, elle peut plus difficilement assumer ce rôle et maternant et interdicteur simultanément. C'est possible, mais c'est moins parfait.
Moi, je le constate. Enfin, je sais que c'est un peu bêta, mais je me permets de te couper encore une fois. J'ai beau répéter 3 fois un truc, il suffit que le père le dise pour que ce soit écouté.
Oui.
Et alors ça, je l'explique pas, parce que pour autant...
Parce que ça marche comme ça. Il y a une répartition des rôles, en fait.
J'y croyais pas, moi. J'étais sûre que ça n'existait pas, cette histoire.
Si.
Et je le constate.
C'est ce qu'on appelle l'imago paternel qui se met en place. Encore une fois, je veux vraiment déculpabiliser, notamment les mères qui sont mères célibataires. Enfin, c'est pas parce qu'il n'y a pas le père qui est là qu'il n'y a pas un référent qui est possible par rapport à ça.
Bien sûr.
Oncle, parrain, ancêtre idéalisé.
Ancêtre idéalisé, ouais.
Ton grand-père aurait dit
Ou ton père, moi j'ai des amis qui ont perdu leur père et qui sont mères célibataires. Et c'est vrai que le père de la mère, même décédé, reste une figure paternelle, référente.
Exactement.
Pour faire passer certains messages, etc.
Pour que ça marche, ce qui est extrêmement important, c'est que le père, dans ce rôle de modérateur, montre l'exemple. C'est-à-dire qu'il ne soit pas violent. Ça paraît évident, mais c'est quand même important de le repréciser, qu'il ait une attitude d'autorité qui soit apaisante, qui serve de modèle et qui soit dans la non-violence. Donc cela sous-entend qu'il se réfère lui-même à la loi et pas à la force.
Très important.
Oui, très très important. Et il doit évidemment se montrer suffisamment bon, suffisamment gratifiant pour compenser les frustrations qu'il va imposer à son enfant. Parce qu'en fait, c'est le grand, grand truc sur l'éducation positive. C'est qu'en fait, les limites ne marchent que si par ailleurs, on renforce positivement l'enfant en le gratifiant par ailleurs. C'est horrible d'être un parent simplement limitant, va dans ta chambre, etc. Ça ne marche ça que si par ailleurs, on apporte une compensation gratifiante à l'enfant dans son développement, qu'on le valorise. Tu comprends?
Bien sûr, bien sûr.
Tu dois peut-être te dire que ce qu'on est en train de se dire sur le père est une vision un peu vieille France. Et c'est vrai.
En tout cas, c'est ce qu'on nous dit.
C'est vrai. Et c'est vrai que tout ce qu'on est en train de se dire, toute cette théorie du développement psychologique est basée sur un modèle très classique homme-femme, père-mère. Sauf que, comme je te disais, depuis un peu moins de 100 ans, on passe d'une société patriarcale, répressive, mais dans laquelle le rôle paternel était assuré, à une société plus équilibrée. mais aussi plus permissive, où les contours du rôle paternel sont plus flous. Mmh. C'est cette fameuse société dont je te parlais, la société post, tu vois, avec des familles monoparentales, des familles homosexuelles, des familles recomposées, des mères célibataires, des mères absentes, parce qu'elles vont travailler, etc., etc. En fait, on ne sait pas vraiment ce que ça va produire. Beaucoup de psys, donc, comme je te disais, constatent que d'un côté, il y a plus de liberté, plus de spontanéité, un meilleur équilibre homme-femme, c'est très bien. Et de l'autre côté, il y a une forme d'adolescence prolongée, d'immaturité, de difficulté à respecter les règles, d'émergence de la violence, comme tu disais tout à l'heure, et aussi de difficulté dans la sexuation. Donc, on verra. En fait, on est vraiment en plein dedans. On verra ce que ça produit. Mais on peut quand même faire confiance à la nature humaine pour en sortir quelque chose d'intéressant.
Alix, on a abordé plein de sujets. Je pense que on en abordera encore plein d'autres. On se reparlera de l'enfance, de l'adolescence et à cette occasion, enfin pendant nos conversations,
et de la parentalité aussi.
De la parentalité, bien sûr. Donc je pense qu'on va conclure cet épisode puisque ça va faire une heure qu'on est ensemble. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour avant de nous quitter?
Déjà que c'est un plaisir de reprendre et de parler de ce sujet.
Ouais.
J'ai envie d'un tout petit peu décaler la discussion en expliquant que nos enfants ne sont pas nos clones.
Ouais.
Hein, tu vois, attention au désir que nous leur assignons.
Nos enfants ne sont pas nos enfants. Et c'est un poème de
Khalil Gibran.
Exactement.
Vos enfants ne sont pas vos enfants, dit-il dans Le Prophète.
Ouais.
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Et y a, pour moi, il n'y a rien de plus puissant que ça.
J'y pense tous les jours.
En fait, attention à ce que leur succès ne soit pas nos triomphes. Attention à les laisser être qui ils sont. C'est parfois difficile, c'est parfois menaçant de les voir dévier de nos attentes, surtout dans les sociétés dans lesquelles on est, où on investit beaucoup sur nos enfants. Tu vois,
bien sûr.
Cela nous sort de nos zones de confort. Mais en fait, le plus beau cadeau, je pense, que nous font nos enfants, ce n'est pas de réussir là où nous avons envie qu'ils réussissent, mais leur cadeau, c'est leur personnalité, c'est leur individualité, c'est leur façon de trouver leur chemin, leur décision, leur vision de la vie. Ils sont absolument merveilleux là-dessus, les enfants. Et voilà, pour moi, l'émotion à cultiver, la meilleure façon d'éduquer nos enfants, c'est d'être joyeux avec eux, d'être présent avec eux, d'être authentique et nous-mêmes avec eux, de vivre, de s'émerveiller auprès d'eux. Et je pense que c'est la meilleure façon d'éduquer nos enfants.
Merci mille fois, Alix, pour ton temps, ton travail. Et bien entendu, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode sur l'enfance toujours, enfin sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et la parentalité bientôt.
Merci Estelle, merci.
Salut
à
Alix.
Toutes, merci à tous.
Merci beaucoup, bye
bye. Au revoir.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.